Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse dans cette nouvelle émission à la perception du temps dans notre cerveau. Une neuropsychologie du temps, pourrait dire notre invité dans quelques instants. Car notre respiration, les battements de notre cœur, nos phases de veille et de sommeil, pour ne donner que quelques exemples, sont autant de rythmes différents qui inscrivent le temps dans la vie. Tous ces rythmes relativement autonomes sont gérés par des ensembles de neurones. Le système nerveux est donc générateur de rythmes. Jean Cambier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes médecin, professeur émérite de neurologie à l'Université Paris 7, ancien président de la Société française de neurologie, membre de l'Académie nationale de médecine et auteur du livre « Du temps et des hommes » publié aux éditions de l'Infini en 2010. Jean Cambier, première question. Comment la notion du temps est-elle entrée dans l'esprit des hommes ?
Dans l'éternité, rien ne change. Tout est immuable. Dans le temps que nous vivons, tout change. Le ciel change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes et la constatation de ce changement permanent des choses a conduit l'homme, grâce à sa mémoire, à éprouver la notion du temps. Cette notion du temps est un concept. Il est impossible de définir le temps comme une chose que l'on pourrait vraiment tenir ou voir. C'est une idée que l'on s'est faite, idée que saint Augustin a remarquablement définie en disant « C'est en toi, mon esprit, que je connais le temps ». Et Heidegger, bien longtemps après, a dit « La pensée humaine est constitutive du temps ». C'est donc le cerveau de l'homme qui lui a permis de concevoir cette notion du temps. Et l'objectif de mon livre est de montrer comment cette notion s'est développée progressivement et s'est inscrite dans les structures du système nerveux.
Mais comme je pouvais le dire en introduction, la respiration, les battements du cœur sont des rythmes qui fonctionnent indépendamment de cette notion philosophique du temps.
Ces rythmes qui sont inscrits dans notre système nerveux, le système nerveux étant naturellement producteur de rythmes, ces rythmes vont constituer en nous une préhistoire, une préconscience du temps. Et cette préconscience du temps est capitale dans l'idée que nous ferons ensuite en vieillissant du temps. Et chez l'enfant, le rythme des tétés sera une première inscription du temps dans la vie de l'individu. Par la suite, le sommeil jouera un rôle considérable et j'ai observé l'histoire d'un garçon de 20 ans qui avait une tumeur dans la région du base du cerveau, qui lui comprimait les structures de la base du cerveau et qui avait totalement perdu la moindre notion du temps. Il ne savait pas le jour, il ne savait pas l'année, il ne savait pas son âge. Et quand il disait qu'il avait besoin de satisfaire un besoin pressant, on lui disait « Est-ce que ça peut attendre ?»« Oh oui, ça peut attendre 20 minutes ». Autrement dit, il n'avait aucune notion du temps. Et en même temps, il avait des troubles du sommeil, des hallucinations hypnagogiques, montrant que ces systèmes qui sont liés, ces rythmes fondamentaux, étaient chez lui perturbés. Or, ces rythmes-là, nous continuons à les exploiter dans notre vie. Nous vivons le temps sans nous en apercevoir. L'appétit dans la journée vient nous rappeler les horaires. Lorsque nous écoutons un exposé, le bâillement, les paupières qui tombent nous indiquent que nous sommes à la limite du temps disponible. Et lorsque nous voyons nos contemporains à des intervalles différents, nous constatons chez eux les stigmates du vieillissement. Là, si vous m'autorisez, je vous citerai juste Marcel Proust qui, dans la soirée des Guermantes, à la fin, au début du temps retrouvé, dit « Je m'aperçus, d'après les métamorphoses qui s'étaient produites en eux, du temps qui avait passé pour eux, ce qui me bouleversa par la révélation qu'il avait passé aussi pour moi. » Ce qui montre bien que le temps s'inscrit déjà en nous sous la forme de phénomènes biologiques qui créent une préconscience du temps.
Alors, vous venez de le dire, vous venez de parler de veille-sommeil, de la notion d'appétit. Tout ça, ce sont des rythmes, rythmes circadiens, ceux qu'on connaît le plus, donc le rythme de sommeil, veille et de sommeil. Les rythmes supradiens, ce sont les cycles mensuels, l'hibernation, les migrations. Et puis les rythmes infradiens, vous venez d'en parler, donc l'appétit ou encore les sécrétions hormonales. Est-ce que le cerveau est à l'origine de tous ces rythmes qui s'instituent dans notre corps ?
Le cerveau en est responsable. Les rythmes du cœur et de la respiration sont gérés par des ensembles de neurones, des noyaux dans le tronc cérébral, dont le fonctionnement est parfaitement indépendant de notre volonté. Ils sont inscrits comme une horloge fondamentale. Ensuite, les rythmes de la veille et du sommeil sont inscrits dans le système nerveux de façon génétiquement déterminée. Ce sont les noyaux suprachiasmatiques qui, dans toutes les espèces, règlent la vie en fonction de la nature de l'espèce et du comportement de l'espèce. Et ces noyaux-là sont indépendants. Bien sûr, ils vont ensuite être réglés chaque jour par le rythme d'alternance du jour et de la nuit, mais ce réglage intervient chaque jour sur un rythme qui est foncièrement déterminé. Et si on fait vivre un animal ou un homme dans l'obscurité, il va se dérégler car, par rapport au rythme nycthéméral, car il restera réglé sur son propre rythme fondamental. C'est ce qui explique les difficultés que l'on rencontre dans les voyages transméridiens ou dans le travail posté, où ces rythmes-là ne parviennent pas à se régler assez rapidement.
Alors, en plus de cette horloge qui est inhérente, qui régule notre propre fonctionnement, il existe aussi des synchroniseurs. La lumière, par exemple, va permettre de synchroniser ces éléments.
La lumière vient chaque jour régler ce rythme avec l'écart des saisons et remettre à jour l'horloge fondamentale. Mais cette horloge, elle est indépendante, elle continue son propre rythme, même si on vit dans l'obscurité.
Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est pour les personnes qui sont aveugles, et notamment aveugles de naissance, comment se régule leur cycle circadien, qui fait donc la veille et le sommeil ?
Cette question a reçu une réponse. Ce sont effectivement des fibres d'origine rétinienne qui règlent ce processus, mais ces fibres sont indépendantes des fibres de la vision. Et donc chez la presque totalité des aveugles, il faudrait avoir les nerfs optiques coupés pour que ces fibres-là ne continuent pas à agir. Moyennant quoi, ces gens-là seraient livrés à leur rythme fondamental, mais ne pourraient plus se régler du tout sur le rythme solaire.
Voilà pour ces rythmes inhérents à notre corps. Venons-en à la maîtrise du temps, à la mémoire immédiate et à long terme. Est-ce que le cerveau, Jean Cambier, est une sorte de minuterie ?
Il y a plusieurs minuteries. Déjà, dans les structures fondamentales, nous avons rencontré des minuteries. Mais nous disposons d'un système qui nous permet de vivre le moment, c'est-à-dire d'exister pendant un certain temps, et pendant ce temps-là, d'arrêter le temps, d'une certaine façon, dans une représentation du moment. Les philosophes ont été très longtemps gênés par cette idée, car le moment, l'instant, se situe entre le passé qui n'existe plus, entre l'avenir qui n'existe pas encore. C'est donc un point sur ce qu'on peut imaginer être la ligne du temps. Comment nous arrêtons-nous sur ce point ? Alors, les philosophes ont posé la question. Pour Bergson, c'est une affaire d'attention à la vie. Pour Heidegger, il invoque une distension de l'âme qui est livrée à elle-même en même temps qu'elle est sollicitée par l'attente. Donc un double processus, d'une part un aspect de volonté, d'attention, et d'autre part, un aspect de mémoire particulier. Eh bien, la physiologie nous permet maintenant d'expliquer ces deux aspects de la perception du moment. L'attention à la vie est sous la dépendance de ce qu'on appelle le système dopaminergique. Le système dopaminergique, on le connaît bien parce qu'il est à la base, il est responsable de la maladie de Parkinson. Mais en fait, il a des actions beaucoup plus complexes dans le système nerveux. Il y a un dispositif qu'on appelle mésostrié, qui va jouer un grand rôle dans le contrôle du mouvement, dans la maladie de Parkinson, et un système qu'on appelle mésolimbique, qui va agir sur le vieux cerveau, le cerveau limbique, sur le cortex frontal, pour gérer l'attention, pour gérer le système de récompense. Et donc ce système-là intervient manifestement dans la gestion du moment. Comment le sait-on ? D'une part, on le sait parce qu'on peut mesurer cette capacité par des tests simples. On demande au patient d'évaluer la durée d'une stimulation ou de reproduire une stimulation d'une durée déterminée. Donc, une étude expérimentale est possible. Si on soumet des patients à cette étude expérimentale, on constate que les parkinsoniens ont un ralentissement de cette horloge et si on les traite par la dopamine, qui est l'intermédiaire chimique du système dopaminergique, si on les traite par la dopamine, l'horloge retrouve son fonctionnement normal. Inversement, chez les schizophrènes qui ont une accélération de cette horloge, l'administration d'un traitement va ralentir l'horloge. D'autre part, on a montré que par les méthodes d'exploration neurophysiologique, d'imagerie médicale, que le thalamus, les noyaux gris centraux sont activés au moment où on soumet les patients à ce genre d'épreuve. Donc, le système dopaminergique intervient pour gérer l'attention, le blocage sur un moment. Mais deuxièmement, il y a l'aspect mémoire. Il faut que, pendant ce temps, la mémoire fonctionne d'une façon particulière. Et cette mémoire-là, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un aspect très particulier de notre mémoire. Nous recevons à chaque instant des informations venant du monde extérieur. Elles arrivent et elles partent. Mais nous avons besoin, pour agir, pour gérer notre conduite, nous avons besoin de retenir un certain nombre de ces informations. Et d'autre part, nous avons besoin aussi de faire appel à des informations qui viennent de notre mémoire à long terme. Toutes ces informations-là, il faut les garder un certain temps présentes. C'est ça le rôle de la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, on sait maintenant qu'elle a deux composantes qui sont différenciées suivant les deux hémisphères cérébraux. Une composante qui est gérée par l'hémisphère gauche, l'hémisphère du langage, c'est ce qu'on appelle la boucle audiphonatoire. Cette boucle audiphonatoire, elle est entre les structures réceptives du langage et les structures actives du langage qui servent à parler. Elles réunissent les deux et elle est le support de ce qu'on appelle le langage intérieur. Donc le support de notre pensée verbale. Quand nous pensons avec des mots, nous activons la boucle audiphonatoire. Et dans l'autre hémisphère, on a un autre système qui est le support d'une mémoire à court terme, d'une mémoire de travail, mais qui est visuo-spatiale, qui nous représente les éléments qui nous entourent, de l'espace qui nous entoure, et que nous sommes amenés à gérer pendant un certain temps. Par exemple, l'endroit où nous avons posé nos lunettes, ou le tournevis qui sert dans notre travail. Donc ces deux mémoires différenciées suivant les hémisphères, ce qui confirme la façon tout à fait différente de fonctionner de chacun des deux hémisphères, l'un qui gère le langage, l'autre qui gère les données visuo-spatiales, ce double fonctionnement est contrôlé par le lobe frontal, les structures du lobe frontal, qui eux-mêmes dépendent du système dopaminergique. C'est comme ça que se reconstitue cette horloge fondamentale qui gère le moment. Le moment présent. Alors, je peux vous en apporter une preuve assez extraordinaire, car elle mérite cela d'être portée à la connaissance du plus grand nombre. C'est l'observation d'une Américaine, médecin, anatomopathologiste, jeune, quarantaine d'années, et qui a été victime d'un accident cérébral limité, un accident vasculaire dans la région temporale gauche, petite hémorragie qui donnait une disruption, une rupture de sa boucle audiphonatoire. À partir de ce moment-là, elle a constaté qu'elle n'avait plus de langage intérieur, qu'elle ne pouvait plus formuler sa pensée. Et elle a dit la chose suivante. Elle a écrit plus tard, quand elle était guérie. « Le temps, pour moi, a suspendu son vol. Le métronome qui scandait le glissement du présent dans le passé s'est arrêté. Sans la possibilité de rapprocher un instant de celui qui le précédait, je me suis mis à flotter d'un moment isolé à l'autre. » C'est vraiment la preuve absolue qu'on a besoin de la boucle audiphonatoire. Remarquez bien qu'elle n'avait pas tout à fait perdu la notion de temps. Elle sentait qu'elle allait être en retard pour aller travailler et qu'il fallait qu'elle prévienne. Elle avait encore une notion intuitive du temps qui s'écoule, mais plus la gestion du moment présent.
Un peu comme les amnésiques, par exemple, qui ne se souviennent plus de leur passé, mais qui ont une conscience du temps présent.
Voilà. Elle avait encore une notion intuitive du temps, mais plus la capacité de gérer le moment présent.
Alors un autre exemple que l'on trouve dans votre livre, avant de marquer une pause, c'est celui d'une femme, ou d'une personne en tout cas, peut-être pas une femme, opérée pour des épilepsies à répétition, et qui se retrouve amputée de sa mémoire de ses 10 dernières années, comme s'il y avait eu un trou. C'est la raison pour laquelle au départ, je vous demandais si le cerveau était une minuterie dans laquelle on range au fur et à mesure des années, selon les années, des informations, des bribes d'informations, des souvenirs, selon les années.
Oui, alors là, nous sommes cette fois-ci dans le fonctionnement de l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, il intervient comme l'autre dans la mémoire à long terme. Il ne s'agit plus ici de la mémoire de travail, mais de la mémoire à long terme. Mais il est spécialement occupé par la représentation spatialisée de la mémoire, c'est-à-dire la chronologie. La chronologie, c'est le calendrier, c'est la représentation que nous avons appris à nous faire du temps comme quelque chose qui se déroule, qui se représente dans l'espace, un calendrier. On peut avoir, comme les anciens, un calendrier cyclique, ou on peut avoir, comme les modernes, à cause de la notion de la création, ont développé l'idée de la flèche du temps, depuis la création jusqu'au jugement dernier. Mais dans tous les cas, si on nous parle d'époque, de temps, et même de notre propre temps, immédiatement, nous nous précipitons vers l'espace. Et d'ailleurs, Bergson l'a dit, dès qu'on parle de temps, l'espace arrive au galop. Bon, c'est évident. Bon, cette représentation spatiale du temps, cette chronologie est très dépendante de l'hémisphère droit. Et quand le fonctionnement de l'hémisphère droit, dans son ensemble, tel qu'il est géré par l'hippocampe, et donc la patiente en question avait subi une chirurgie de l'hippocampe, quand le fonctionnement de son hémisphère droit n'est plus correct, elle a perdu la capacité de gérer la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des événements tels que nous les avons vécus dans leur contexte un peu proustien, avec Proust l'a poussé à l'extrême, mais ce sont les moments de notre vie pour lesquels on est incapable de se rappeler le temps qu'il faisait et les sentiments que nous avons eus, vécus dans un ensemble. Non pas comme une histoire, mais comme un moment vécu. Alors non seulement l'hémisphère droit gère la mémoire épisodique, mais il gère aussi la chronologie, la représentation chronologique de ces événements, l'ordre dans lequel ils se sont déroulés. Et la lésion de l'hippocampe du côté droit, en empêchant son hémisphère droit de fonctionner normalement, peut être responsable de ce genre d'anomalie. J'ai eu une patiente, moi, qui avait une lésion de son thalamus du côté droit. Le thalamus est actif en l'ensemble de l'hémisphère. C'était une femme d'une 65-66 ans. Son mari était mort 10 ans auparavant. Elle vivait comme si son mari n'était pas mort. Elle se mettait en colère en disant « il n'est pas encore rentré, il est encore au bistrot », etc. Cependant, si on l'interrogeait sur l'événement, elle dit « mais oui, elle racontait l'événement ». Mais elle n'intégrait pas dans son vécu.
L'événement de la mort de son mari, c'est ça ?
La mort de son mari. Elle pouvait dire quoi ? Elle pouvait dire comment ça s'était passé ? Elle était incapable où ça s'était passé, mais de dire quand. Et le fait de ne pouvoir pas dire quand faisait que quand elle, dans sa vie courante, elle ne l'intégrait pas. Donc ça prouve bien que l'hémisphère droit joue un rôle très important dans ce vécu de la chronologie. Pas exclusivement. Car quand la chronologie dit aussi le curriculum vitae, c'est-à-dire l'histoire que nous nous racontons de nous-mêmes, et ça, cette histoire-là, c'est du langage, et ça dépend de l'autre hémisphère, de l'hémisphère gauche.
Alors Jean Cambier, si vous le voulez bien, on marque une pause, oui. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission consacrée à votre livre « Du temps et des hommes, vers une neuropsychologie du temps ». À tout de suite.
Ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillant de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jean Cambier, membre de l'Académie nationale de médecine, où nous parlons du temps et des hommes vers une neuropsychologie du temps, paru aux éditions de l'Infini en 2010. L'occasion donc de se pencher sur cette perception du temps, cette perception que nous avons du temps et de l'utilisation que nous en avons. Alors peut-être poursuivons sur le langage du temps. Dans votre ouvrage, Jean Cambier, vous distinguez le temps et le temps avec un T majuscule. Peut-être pourriez-vous justement nous différencier les deux.
Quand l'homme a appris à vivre le moment, quand il a ensuite acquis une représentation, quand il est sorti de l'ici et du maintenant pour avoir une représentation de l'espace et du temps, il a éprouvé le besoin de prendre la maîtrise de l'espace et du temps. Si bien qu'on est passé d'un temps théorique, d'un temps d'une intuition, à une espèce de réalité concrète, puisque l'homme a acquis la capacité de mesurer le temps et l'espace. Pour mesurer l'espace, il disposait de son corps, le pouce, la coudée, le pied, le nombre de pas pour mesurer les distances. Pour mesurer le temps, l'homme n'avait pas de moyens comparables. Certes, la nuit, il pouvait tenir compte des astres, mais dans la journée, c'était beaucoup plus embarrassant. Je vous ferai remarquer que pour les Romains, une heure de jour mesurée au cadran solaire durait deux fois plus longtemps au solstice d'été qu'au solstice d'hiver. Et pourtant, les Romains parlaient d'heures. Et même, ils ont été parvenus à diviser cette heure en question, cette heure aussi variable, et la diviser pour parler d'une petite chose, la minute, petite minute, minuta par rapport à l'heure. Petite chose. Mais tout ça a été problématique. Il fallait cependant mesurer le temps de parole des orateurs et le temps de veille des légionnaires, car cela était essentiel. Donc, ils utilisaient, les Égyptiens, puis les Grecs, les Romains, le clepsydre ou le sablier pour des mesures précises du temps. À partir du sablier et du clepsydre, les moines ont inventé l'horloge à eau, et l'horloge à eau leur a permis de rythmer les journées avec des heures qui étaient des heures égales, et à l'aide des cloches, de faire que le temps, au Moyen-Âge, devenait une réalité. C'était les cloches qui géraient les choses, mais on était payé, cette fois, on était payé à l'heure et non plus à la journée. Il a fallu la Renaissance pour qu'on invente l'horloge. La première horloge, le pendule, et la première horloge, et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Mais le chronomètre n'est entré dans les mœurs qu'au début du 19e siècle. C'est seulement à ce moment-là qu'on voit des portraits avec une montre. Et vers la moitié du 19e siècle, l'avènement des chemins de fer a tout changé. C'est pratiquement à cette période que le temps est devenu mesuré, que les gens ont vécu avec des horaires fixes et ont vraiment mesuré le temps. À partir de là, la science s'est saisie du temps et le temps est devenu une chose nouvelle. La numération sexagésimale a été abandonnée et on a divisé le temps avec une numération décimale. On est passé de la seconde division du temps, seconde par rapport à la minute. On est passé de celle-là à la centième de seconde, à la milliseconde et au temps de la science. Mais ceci, c'est l'aspect chronométrique des choses. Il y avait parallèlement un développement du langage. Je vous ai parlé de l'heure, de la minute, mais le temps est entré avec ces mots, il est entré dans la vie des gens comme une chose concrète. Ce n'était plus simplement une intuition, c'était quelque chose dont on parlait. On gagne son temps, on perd son temps, on rattrape son temps, et même on apostrophe le temps du haut de ces pyramides, 40 siècles vous grand temple. Le temps est entré dans le langage. Et à partir du moment où il est entré dans le langage, la communion des gens, la communion des populations, faisait que le temps devenait de plus en plus une affaire collective. Et ça, nous, si vous voulez, on en reparlera un peu plus loin.
Alors, justement, pour aller dans votre sens, dans votre ouvrage, dans les premières pages, vous parlez que, faute de pouvoir emprisonner le temps dans une définition, l'homme a résolu de l'apprivoiser en le mesurant, on vient bien de le voir à l'instant avec vous, et puis cette pression sociale exacerbe l'importance du temps et l'utilisation que nous en avons ou pas.
Il est vrai que, mais c'est déjà Euripide disait, sache-le, donner à chaque instant ce qu'il exige compte plus pour chacun que de soumettre trois. Donc Euripide, déjà pour les anciens, bien employer son temps était une notion importante. Mais c'est vrai que la valeur du temps a changé avec l'évolution des civilisations et qu'actuellement, maîtriser l'emploi du temps est une chose tout à fait fondamentale. Cette maîtrise de l'emploi du temps nécessite à chaque moment qu'on fasse appel à la mémoire, à l'expérience, à la mémoire du passé. Mais aussi qu'on mette en jeu un projet, donc la mémoire du futur, ce qu'on appelle la mémoire prospective. Et puis que tout ça, on le gère correctement dans la mémoire du présent, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est donc une gestion un peu complexe. Il faut éviter un certain nombre d'écueils. Les principaux écueils, c'est d'une part les distractions, c'est-à-dire être capté par les événements qui nous entourent et qui nous détournent de notre intention. Donc, éviter aussi les conduites qui sont automatisées et que nous avons, par exemple, en présence d'un objet, de le saisir automatiquement. Il faut maîtriser ces tendances un peu instinctives pour gérer correctement son emploi du temps. Et c'est une fonction des lobes frontaux, c'est une fonction qui est très propre à l'homme. Un animal qui rencontre un os ne peut pas s'empêcher de prendre l'os. Prendre du recul par rapport à la situation, c'est le lobe frontal et c'est le développement des lobes frontaux qui permet à l'homme de réaliser son emploi du temps. L'emploi du temps, c'est le propre de l'homme. L'animal, sa vie instinctive, mais ne gère pas son emploi du temps. même les plus élaborées. À l'exception d'un singe dont je ne raconte pas l'histoire dans mon livre, mais que je peux parler là, un singe des zoos, je crois, de Stockholm, qui, le matin, vers 5 heures du matin, accumulait des pierres dans un endroit, sur une petite colline, au-dessus du jardin zoologique, pour que, lorsque les visiteurs arrivaient, ils puissent commencer à lancer les pierres. C'était intégré dans sa conduite de défense de l'espèce, mais malgré tout, il commençait à avoir une certaine gestion.
Il avait de la préméditation.
Il avait une prévision. Bon, c'est quand même pas la règle. Les graves lésions du cerveau mettent les patients dans un état d'incapacité de gérer. Et ça peut être tout à fait fantastique. Avec mon maître François Lhermitte, nous avons mis en évidence ce que nous appelions les comportements d'imitation. Le patient qui a une grave lésion frontale, vous lui faites un salut militaire, il fait un salut militaire. Un pied de nez, il fait un pied de nez. Comportement d'utilisation, vous lui mettez un verre et une bouteille, il remplit son verre et il boit. Il est obligé d'utiliser l'objet. Ces comportements, lorsqu'ils sont dans les lésions graves de lobe frontal, vont jusqu'au zapping permanent en face des postes de télévision. Mais ces comportements-là peuvent être plus nuancés chez les gens qui ont des lésions moins importantes des lobes frontaux. Et c'est là qu'une de une patiente que j'ai suivie pendant un certain temps, avec une lésion du lobe frontal du côté droit, dans l'hémisphère droit, cette lésion lui a donné une hémiparésie de son hémicorps gauche qui avait régressé assez bien.
Paralysie partielle.
À partir de ce moment-là, elle avait récupéré pas mal, mais elle restait tout à fait indifférente au monde qui l'entourait, indifférente à ses proches, comme les gens qui ont des lésions frontales, notamment frontale droite. Mais surtout, son comportement quotidien était absolument perturbé. Vers 5 heures du matin, elle se réveillait, elle faisait sa toilette, un peu de ménage, elle faisait la liste de ses courses, elle allait faire ses courses, à 9 heures, elle était rentrée chez elle, son comportement quotidien était terminé, elle ne faisait plus rien jusqu'au soir. Si des invités arrivaient, à 8 heures du soir, elle se couchait, même s'il y avait des invités. Le programme était rempli. Alors, ce qu'on peut admettre chez cette patiente, c'est qu'elle avait un programme, elle appliquait un programme qu'elle avait depuis toujours dans son hémisphère gauche, qui est l'hémisphère où on enregistre les choses, où on enregistre nos programmes. Et bon, il était là, son programme.
Mais, elle ne prenait
mais l'hémisphère
plus compte
droit n'était pas plus là pour temporiser, pour que l'application du programme soit en relation avec la vie normale. Et c'est tout à fait le jeu de chacun des hémisphères, quelque chose qui nous amènerait beaucoup trop loin, de détailler cette vie différente de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Sujet passionnant, mais qui je vous parlerai un autre jour.
Alors, malheureusement, le temps passe, hein, voilà. Ce serait aussi une thématique à développer au cours de cette émission. Dans votre ouvrage, vous parlez du temps de la science, de l'homme qui défie le temps à travers ses œuvres. Terminons peut-être quand même sur ce temps collectif. Vous en avez rapidement parlé là, il y a quelques instants. Vous faites la différence entre temps individuel et temps collectif. Et
oui, je vous ai parlé du temps comme une découverte de l'individu. En fait, l'homme est un animal social. L'enfant qui a été élevé avec les loups ne connaissait que le temps des loups. Le temps de l'homme, avec le langage, l'enfant apprend, en même temps qu'il découvre le temps, il apprend le temps des autres. Et le temps des autres, c'est le temps de la société. Et au fil des années, la notion du temps s'est développée dans la société. Ce temps social est aussi devenu, il est développé dans le langage, il est devenu du temps vécu, il est devenu le temps pensé. C'est-à-dire, c'est le temps de la science, c'est le temps des philosophes, et c'est le temps des religions. Et puis, c'est aussi le temps de chacun. Le temps de Pénélope n'est pas le temps d'Ulysse, et le temps que nous vivons tous les jours, et notre temps propre qu'il faut que nous apprenions à ajuster, plus ou moins facilement, au temps social.
Terminons peut-être, Jean Cambier, sur ce temps que l'on essaie de défier à travers les œuvres. Et puis, ça sera ma dernière question. Est-ce que l'homme peut transcender le temps? Question, ma foi, plus philosophique que scientifique.
Non, c'est une question qui n'est pas tellement philosophique. Si l'on considère les œuvres d'art, on constate une chose, c'est qu'elles durent. Elles durent à travers le temps. Elles sont, à travers le temps, des témoignages de la durée. Elles sont des vestiges, des témoignages de leur époque. Une première chose. Deuxièmement, l'œuvre d'art, chacune œuvre d'art a sa propre histoire. Curieusement, une œuvre d'art, quand elle est vraiment une œuvre d'art, est un peu une innovation, elle est un peu une provocation. Comme le dit Proust encore, il dit « Il a fallu 50 ans pour que les quatuors de Beethoven donnent envie aux auditeurs d'écouter les quatuors de Beethoven. Et c'est vrai pour la musique, mais c'est encore plus vrai pour la peinture, où bien presque souvent les innovations choquent et c'est même sont un peu provocatrices. Donc chaque œuvre d'art a sa propre histoire. Et alors dans la création artistique, il y a certainement des œuvres du temps, comme la musique, et des œuvres de l'espace, comme la peinture ou la sculpture. Mais si l'on regarde bien, on s'aperçoit que la musique, lorsqu'on l'écrit, s'inscrit dans l'espace, la partition, que les œuvres d'art ont chacune une tendance à vivre le temps, à représenter le temps dans une perspective temporelle, et c'est ce que je montre dans mon ouvrage. Quant à la littérature, elle vit dans le temps. Raconter une histoire, c'est s'installer dans le temps. Raconter l'histoire, c'est encore plus vrai, mais même toute histoire est souvent un peu tissée autour d'une biographie. Enfin, toute la littérature est une façon de tricoter ou de détricoter le temps. Au total, c'est le cerveau de l'homme qui développe par étapes cette idée du temps, dont on pourrait concevoir une ontogénèse peut-être, à partir du nourrisson qui apprend à vivre le temps dans la tétée jusqu'au développement de l'adulte, une phylogénèse à travers les espèces, car les animaux n'ignorent pas le temps, et on pourrait décrire cette phylogénèse, mais ce développement dans l'esprit de chacun est aussi un développement dans l'esprit de l'ensemble, mais la rencontre de la nature et de la culture, c'est encore le cerveau de l'homme qui assure cette rencontre, et c'est pourquoi la biologie est le meilleur fil conducteur pour comprendre la nature de cette relation entre l'homme et le temps.
Et pour en savoir plus, donc j'invite nos auditeurs à lire votre ouvrage « Du temps et des hommes vers une neuropsychologie du temps » paru aux éditions de l'Infini en 2010. On y retrouve les notions de temps pressenti, de temps suspendu, de temps maîtrisé et de temps retrouvé. Merci Jean Cambier, et puis je l'espère à bientôt pour une prochaine émission sur un prochain ouvrage. Merci.